Toulouse et de l'Adour à toutes les Landes. Et c'est tout pour l'actualité. Et belle matinée à tous.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fréquence Association. Cette semaine, nous allons parler d'emploi et notamment de l'emploi des jeunes avec l'association Nos Quartiers ont du talent qui cible plus particulièrement les jeunes diplômés d'études supérieures issus de milieux modestes et des quartiers prioritaires. Et pour en parler avec nous, j'accueille par téléphone ce matin Philippe Roffin. Bonjour.
Oui, bonjour. Et avant toute chose, je vous remercie de... Merci Radio Plus de m'accorder cette interview.
Eh bien, merci en tous les cas à vous d'être avec nous sur Radio Plus. Vous êtes donc le délégué régional Hauts-de-France de cette association. Alors, comment s'est-elle créée ?
Alors, NQT, donc c'est la raison sociale, mais la raison sociale originelle, donc c'était Nos Quartiers ont des talents. Donc c'est une association, loi 1901, reconnue d'intérêt général à caractère social, qui n'est pas l'émanation d'une volonté publique, mais qui est née de l'initiative de chefs d'entreprise. Des chefs d'entreprise qui étaient réunis, voilà 15 ans maintenant, c'était en 2005, à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce département, mais pour bien comprendre l'ADN, oui, il faut faire un petit peu d'historique. Donc c'est un département qui avait connu, encore maintenant, une forte dynamique suite à l'effet Stade de France en termes de relocalisation de sièges sociaux d'entreprise. Et qui dit sièges sociaux qui sont venus s'implanter, forcément besoin de jeunes haut diplômés pour occuper toutes les fonctions support, fonctions cadres qui s'offraient à eux dans ce département. Et le constat était, c'est un petit peu raccourci, mais c'était une réalité, le patronat local s'est rendu compte que les jeunes haut diplômés qui étaient recrutés, ils venaient de partout, sauf du 9-3. Alors comment se fait-il, malgré leur haut niveau d'études, ils n'arrivaient pas à s'intégrer dans les entreprises venues proches de chez eux? Donc pour amener les choses de façon, c'est un petit peu abrupte, mais réelle, c'est des questions liées à la discrimination. Pourquoi délit de code postal, délit de milieu social, délit de patronyme. Donc l'association est née sur ce constat. Alors très concrètement, donc NQT, Nos Quartiers ont des talents, a pour but d'accompagner les jeunes âgés de moins de 30 ans, aux diplômés, plus 3 et plus, d'accord, donc ils ont quitté l'école, ils sont en recherche d'un premier emploi pérenne, et c'est le drame également. Donc voilà, j'ai 27 ans, j'ai 28 ans, j'ai 29 ans, j'ai un master 2 en poche, et je n'ai connu que des petits boulots, des CDD, au pire même, je suis au RSA malgré mon niveau d'études. Donc moins de 30 ans, bac plus 3 et plus, et qui sont issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, mais pas seulement, qui sont issus de milieux sociaux modestes, milieux sociaux défavorisés. Et comment nous les aidons, comment nous les accompagnons? Donc voilà, c'est la thématique, c'est en les faisant parrainer, c'est bien une thématique de parrainage, en les faisant parrainer par les cadres collaborateurs de nos structures partenaires, de nos entreprises partenaires. Voilà donc le but très précis de l'association NQT. Et depuis maintenant presque 15 ans, donc plus de 52 000 jeunes ont été accompagnés au niveau national, par plus de 12 000 parrains et marraines, et sur une durée moyenne de parrainage de 6 mois, donc, sans prétention, il y a une belle sortie positive, 70% d'entre eux trouvent un emploi pérenne à hauteur de leur qualification, ou du moins à hauteur de leur souhait. Et donc ce qu'il y a derrière, je reviens à l'ADN, la philosophie, ce sont des jeunes gens qui ont un ADN social, vous l'avez compris, qui n'est pas favorable au départ, qui ont été des warriors depuis la maternelle, qui se sont battus pour échapper au déterminisme social, pour décrocher un diplôme. Mais ça suffit pas, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas de réseau, parce que les codes de l'entreprise ne sont pas intégrés, un manque de confiance, un projet professionnel qu'on n'a pas affiné ou qu'on n'a pas réussi à construire. Et le parrain, la marraine dans l'entreprise engagée, va coacher ce jeune homme, cette jeune fille, pour l'aider à intégrer le monde du travail, vision réaliste du monde du travail, démystifier l'entreprise, apporter la structure, de la méthodologie. Et pour cette thématique, donc thématique d'égalité d'échange, je l'ai dit, de lutte contre les discriminations, et également cette notion, c'est très important, d'ascenseur social et de mérite républicain. Ce sont des jeunes gens qui ont misé sur les études pour bénéficier de l'ascenseur social, et ça n'a pas fonctionné, ils sont restés dans la même situation que s'ils avaient fait le choix de savoir que, en France, seuls 8% des cadres sont fils d'ouvriers ou d'employés. Donc c'est un chiffre criant qui montre bien que l'ascenseur social est quand même plus ou moins bloqué. Donc voilà, dans les grandes lignes, ce qu'est la thématique de NQT. Et au niveau de l'entreprise, l'entreprise s'engage, l'entreprise, il y a une demande, à la conscience qu'elle n'a pas seulement un rôle économique, mais un rôle social, sociétal. Et donc voilà, ça va avoir un impact social. Le parrain, la marraine va accueillir le jeune en entreprise pour le coacher, il va devenir son mentor. Et donc ça peut être un problème de confiance, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un problème de projet professionnel qui n'est pas fini, une absence de réseau, un projet professionnel, une orientation, apporte une transférabilité de compétences. Et le parrain, la marraine, connaît une grande fierté quand le jeune lui annonce que grâce à son action, il a trouvé un job. Ça va fédérer les cadres volontaires autour d'un projet sociétal qui fait sens, qui donne sens. Alors nous ne sommes pas Pôle emploi, on n'est pas fournisseur d'emploi. Le but n'est pas de recruter le jeune dans l'entreprise, quoique ça arrive. 8 à 9% des jeunes qui sont parrainés sont recrutés dans l'entreprise du parrain de la marraine. On organise également des ateliers, des actions RH en entreprise, mais c'est pas le but premier. C'est le but premier, bien sûr, c'est du coaching.
Alors, votre association est présente dans chacune des régions de France. Vous l'avez un petit peu évoqué,
oui,
mais aussi
outre-mer. En outre-mer également, il y a des problématiques qui sont peut-être pas forcément les mêmes qu'en métropole. Oui.
Alors, combien de jeunes de la région Hauts-de-France sont accompagnés chaque année?
Alors chaque année, donc par exemple sur l'année passée en 2019, par année civile, il y a 450 nouveaux jeunes en région de France qui ont intégré le dispositif et qui ont été parrainés. Oui.
Alors vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais revenir là-dessus. Qu'est-ce qui manque à ces jeunes? Quels sont les plus que vous leur apportez?
Alors c'est les parrains et la marraine, les plus si vous voulez. Donc vous savez, ils sont issus d'un milieu social défavorisé. Et donc, les parents ont une grande fierté quand l'enfant a son diplôme. Mais la confiance, l'aisance relationnelle, le réseau, travailler sur le projet professionnel, sur les outils, le CV, la lettre de motivation, l'ADN social fait que les parents ne peuvent rien pour lui. Et c'est là où on attend le cadre d'entreprise. Qui d'autre qu'un cadre dans une entreprise peut lui apporter tous ces éléments? Et quelquefois, il faut pas grand-chose. Quelque chose qu'ils n'ont pas pensé à mettre en avant sur le CV. La confiance, surtout, beaucoup, tous les parrains le disent, beaucoup d'entre eux, il y a un manque de confiance, une perte de confiance. Mais également, travailler sur le projet professionnel, le réseau surtout, vous savez que c'est un chiffre criant également, à ce niveau-là d'études, qu'on arrive à Bac plus 4, Bac plus 5, plus de 80% du marché de l'emploi, c'est du marché caché de l'emploi. Même si l'offre est publiée, donc voilà, ça va marcher par réseau, sur le réseau professionnel, etc. Et également, donc, un problème d'orientation, donc c'est possible de faire aider le jeune à faire une transférabilité de compétences, travailler, sur le CV, sur les outils, projet professionnel. Voilà aujourd'hui ce que le parrain, la marraine, va lui apporter au-delà du diplôme.
C'est-à-dire essayer justement pour ces jeunes de leur ôter les freins qu'ils peuvent se mettre eux-mêmes.
Qui peuvent tout à fait se mettre eux-mêmes. Bah oui, c'est pas fait pour moi. Si, c'est fait pour vous. Quelquefois également, ils se mettent des freins eux-mêmes. Oui.
Alors, d'après vos propres chiffres, 64% des jeunes que vous accompagnez sont des étudiants boursiers. 24% d'entre eux sont bénéficiaires du RSA. Donc, beaucoup de jeunes qui sont confrontés à des difficultés économiques. On l'a vu pendant le confinement, beaucoup d'étudiants ont sombré dans la précarité en perdant, par exemple, un petit job qu'ils avaient. Est-ce que ça a été le cas de certains des étudiants de votre connaissance?
Voilà, et par rapport à ça, donc, on a remarqué, les jeunes sont ici, quand même avec un moral encore un petit, encore plus bas. Alors faut savoir, je fais une petite parenthèse, que entre autres associations, notre association NQT fait partie d'un collectif où auprès de nos entreprises partenaires, on a pu récupérer des ordinateurs pour fournir vraiment aux jeunes les plus précaires qui n'ont même pas accès chez eux à, ils n'ont même pas un PC, accès à Internet pour continuer à faire aider leurs démarches. Alors nous, le lien n'est pas brisé, donc ici, les équipes d'NQT sont en chômage partiel du fait que nos activités, c'est surtout à l'extérieur, bien sûr. Donc comme il n'y a plus d'activités de sourcing, d'ateliers et de prospection auprès d'entreprises, ce qu'on a remarqué, ce qu'on a voulu, c'est continuer à garder le lien. Donc nos chargés de mission sont en lien permanent avec les jeunes, que ce soit en emailing de masse, mais le parrainage continue. on utilise le digital, voilà, donc c'est le parrain via Skype, par téléphone, c'est plus des rendez-vous physiques. Donc les 15 premiers jours de confinement, donc les entreprises, les parrains, on a du mal un petit peu à les mobiliser. Maintenant, c'est revenu, mais ça se comprend. Bon, après, ça dépend des activités, des métiers. Et ici, on peut constater, nous, c'est très important, c'est continuer à garder le lien avec les jeunes. On organise des ateliers avec via les outils Microsoft Teams. Il faut être imaginatif via Zoom. Mais que, bon, c'était déjà un contexte qui n'était pas facile pour eux, l'accès à l'emploi. Et là, on ressent qu'il y a quand même qu'ils sont assez dépités, comme vous le disiez, oui.
Reste avec nous, on revient d'ici quelques instants sur Radio Plus, Philippe Roffin. Je rappelle que vous faites partie de l'association Nos Quartiers ont du Talent.
Chaque jeudi matin, à partir de 9h, Radio Plus vous propose des magazines et reportages. Vous faites partie d'une association? Venez partager vos activités. N'hésitez pas à nous contacter au 09 52 22 22 07 ou sur contact@radioplus.fr.
Et toujours donc dans Fréquence Association, et on parle de l'association Nos Quartiers ont du Talent, en compagnie de Philippe Roffin, délégué régional Hauts-de-France de cette association. Alors Philippe Roffin, un autre chiffre qui interpelle, c'est que votre public compte une large majorité de filles. Comment l'expliquez-vous?
Alors si vous voulez, donc, l'explication, elle n'est pas évidente à donner, mais on peut un petit peu l'imaginer. Donc peut-être parce qu'il y a plus de filles dans les quartiers, dans les milieux sociaux défavorisés qui font d'études que les garçons. Mais je pense aussi que ça doit être au niveau des filières choisies. C'est vrai qu'au départ,
beaucoup de secteurs tertiaires.
Il y a des filières qui sont plus choisies par les filles que par les garçons. Et par exemple, il y a des métiers sous tension, c'est tout le contraire, l'informatique où il y a des filières dans l'orientation qui sont plus choisies par les filles, et où au contraire, comme il y a une surreprésentation sur ces métiers, donc même s'il y a des embauches, je pense que ça peut être l'explication, où il y a une surreprésentation sur certaines filières, oui, que les filles choisissent par rapport aux filières choisies par les garçons qui sont peut-être des filières plus scientifiques, où là il y a plus de tension et donc les embauches sont plus faciles.
Alors Philippe Roffin, comment ça se passe si un jeune diplômé de la région veut se faire accompagner? Quels sont vos critères?
Alors très concrètement, donc nous c'est avoir moins de 30 ans, d'accord, donc avoir au moins bac plus 3 et plus validé.
Oui.
D'accord, donc on est sorti du système universitaire, du système scolaire, sauf exception, on accepte également des alternants, mais à partir de la licence, d'accord, donc là ils sont encore en études, mais ils sont en recherche alternance, donc ça va être du parrainage alternance, donc moins de 30 ans, bac plus 3 et plus, et qui sont issus, mais pas seulement, j'ai dit tout à l'heure, pas seulement des quartiers prioritaires de la politique de la ville, mais le milieu social défavorisé. Et si vous voulez, nous c'est vraiment assez large, donc s'ils ont été boursiers sur critères sociaux pendant leurs études universitaires, s'ils sont au RSA, si leurs parents sont au RSA, et après c'est selon la catégorie socio-professionnelle, donc c'est les critères de points, c'est si les parents sont ouvriers ou employés, donc vous voyez, c'est quand même assez large.
Voilà, toujours pour justement essayer de remettre en route cet ascenseur social et de freiner un petit peu ces déterminismes sociaux qui demeurent très importants, effectivement.
Tout à fait, qui est peut-être plus criant dans la région, peut-être même dans le bassin minier qu'ailleurs. Parce que nous entrons de plein pied dans une économie de la connaissance, et les hauts diplômés, c'est seulement, on va en avoir besoin. Et je veux dire, même si pour eux, quelquefois, il ne faut pas grand-chose, un problème, je le disais tout à l'heure, redonner confiance, quelque chose qui n'a un petit peu de réseau, quelque chose qui n'en peut pas penser à mettre en avant sur le CV, mais ceux qui grossissent les rangs de Pôle emploi, malgré tout, ce sont les jeunes sans diplôme, bac, infrabac, donc malgré tout, c'est quand même mieux d'avoir un diplôme, et donc ils y ont cru, vous comprenez, c'est ça le problème, ils sont encore plus désabusés, de rester au pied de leur immeuble, alors que, je vous disais tout à l'heure, c'était des battants, des guerriers qui ont eu la niaque depuis la maternelle. Et quelquefois, même depuis, je dirais la primaire, avec des parents qui n'ont même pas pu les aider à faire leurs devoirs, parce que, donc c'est ça qui est encore plus injuste.
Alors, Philippe Roffin, l'épidémie de coronavirus a eu un impact considérable sur les entreprises. Elle continue d'ailleurs d'en avoir. Or, votre association dépend étroitement de financements émanant d'entreprises sous diverses formes. Comment cette crise a-t-elle impacté votre fonctionnement?
Si vous voulez, les associations, c'est vrai qu'on entend peu parler, mais bon, on a les mêmes problèmes, c'est le chômage partiel, c'est le télétravail, c'est l'impossibilité de se développer, parce que c'est aussi les partenariats privés, publics, en plus partenariats publics avec les collectivités. Bon, c'est une année charnière où tout est un petit peu arrêté du fait c'est des élections municipales qui traînent, des élections communautaires également qui traînent. Donc il y a un impact. Donc nous, le message qu'on veut faire passer aux entreprises, je pense que les parrains et les marraines, après plusieurs semaines de confinement, ils sont en demande. Ils veulent continuer à parrainer. C'est de dire il faut continuer. Je sais bien que ici, avec le déconfinement, la reprise de leurs activités, c'est pareil pour nous. Elles veulent se reconcentrer sur leur cœur de métier, elles vont tout remettre en place dans les entreprises avec la distanciation au niveau des RH. Je pense que ça va perturber. Moi, le message qu'on veut faire passer, c'est tout le contraire. Ne lâchez pas. Alors, c'est peut-être pas tout à fait la priorité maintenant, mais essayez toujours cet esprit d'avoir une démarche RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, parce que vous soyez engagé comme nous pour l'insertion et l'emploi des jeunes ou pour le handicap, mais plus que jamais, c'est tout le contraire. On va avoir besoin de vous. Et vous savez, parmi nos parrains et marraines, et même moi, je vais pas raconter ma vie personnelle. J'ai deux enfants qui sont encore en études. Donc ils font preuve d'empathie parce que c'est pour les je vais avoir 56 ans, ma vie est défaite, mais c'est pour eux, c'est pour les jeunes. Donc je pense qu'ils vont faire preuve d'empathie dans le sens où les parents qui sont quarantenaires, cinquantenaires, qui ont des enfants en études, ça va être d'autant plus difficile, qu'ils vont avoir conscience d'entrer plus que jamais dans cette démarche, même si bien sûr au départ, ils vont se reconcentrer sur les problèmes de leur entreprise liés au Covid-19.
Est-ce que malgré tout, les jeunes que vous suivez au sein de votre association demeurent confiants?
Oui. Ah oui, tout à fait, oui.
Un arrêté alors paru au journal officiel le 27 mars permet à votre association, dans le cadre de la loi Avenir Professionnel, de percevoir désormais la taxe d'apprentissage. Qu'est-ce que ça change pour vous?
Alors, c'est la taxe d'apprentissage, on peut l'apercevoir depuis de nombreuses années. Donc voilà, il y a tout simplement cette année, il y a une parution au journal officiel. La taxe d'apprentissage, c'est important pour nous en cette période difficile où moi-même, en tant que délégué régional, la prospection pour aller chercher de nouveaux partenaires, alors c'est un plus. Donc la taxe d'apprentissage aujourd'hui, le message à faire passer aux entreprises, donnez-lui du sens à votre taxe d'apprentissage. Après, ils ont leurs habitudes, par ailleurs, après on peut la partager, ou pour ceux, il y a des entreprises qui ne savent pas qui l'a donné, c'est donner du sens à votre taxe d'apprentissage en la versant en totalité ou partiellement à NQT, à nos quartiers des talents, nous soutenir financièrement et puis indirectement, ou même presque directement, contribuer à l'égalité des chances. Donc c'est par ce biais que en ce moment, on essaye de communiquer via cette taxe aux entreprises. Alors après, la date normale, c'est le 31 mai.
Oui.
Alors j'ai pas trop suivi l'actualité sur ce point, mais peut-être est-elle un peu repoussée, je sais pas.
Alors donc concrètement, pour les entreprises qui nous écoutent, elles peuvent donc reverser une partie de la taxe d'apprentissage, la totalité.
Elles peuvent reverser une partie. Alors j'ai pas, comme ici, j'ai pas support sous les yeux, donc c'est un calcul un petit peu compliqué, mais tout à fait, il y a la possibilité de le verser à notre association. Si elle souhaite contacter, je les contacte, mais après, si elles-mêmes, elles veulent aller de l'avant par rapport à nos auditeurs, s'il y a des dirigeants d'entreprise, via notre site ou sur notre boîte mail qui est hautdefrance@nqt.fr pour plus de renseignements. Donc Hauts-de-France,
En toutes lettres et tout collé.
Tout attaché, hautdefrance@nqt.fr pour avoir plus de renseignements par rapport à ce versement.
Alors le fait que ce soit un arrêté du gouvernement, c'est quelque chose d'exceptionnel ou
comment on l'interprète? Franchement, je vais pas me défausser mais par rapport à ça, mais c'est vrai qu'on l'aperçoit depuis de nombreuses années. Alors cette année, il faudrait que je porte à ma direction, mais c'est paru au journal officiel, mais j'ai pas plus d'éléments à porter par rapport au fait que ce que pourquoi c'était paru. Bah ça donne encore plus de force par rapport à cette officialisation, par rapport à cette possibilité de l'apercevoir, oui.
Alors pensez-vous que les entreprises seront au rendez-vous malgré le contexte difficile, par rapport aussi à cette taxe d'apprentissage, au parrainage?
Oui, le parrainage, oui, pour nos entreprises partenaires, je pense qu'il va, je disais tout à l'heure, beaucoup de parrains, quand même nombre de parrains, continuent, et on arrive encore à matcher même des nouveaux parrains bien sûr, ils font ça via Skype ou via, ou par téléphone, à distance, il y a les moyens comme Zoom, Teams,
etc. Beaucoup de moyens compliqués.
Après, bien sûr, par exemple, moi, en tant que délégué régional, comme tous les délégués régionaux de NQT, c'est aussi nous prospecter de nouvelles entreprises, pour avec notre bâton de pèlerin, pour aller prêcher, je dirais, notre parole. Et là, tout est mis à l'arrêt. Et c'est ce qu'on pourrait craindre également, de dire, elles vont pas avoir la tête à rentrer dans une démarche RSE, mon avis, c'est que ce sera peut-être une question de temps, un retard à l'allumage, avec une année 2020 peut-être un peu plus compliquée, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tout le contraire. Les entreprises, elles vont devoir se reconcentrer sur leurs problèmes par rapport au contexte, mais n'hésitez pas à rentrer dans une démarche RSE, quelle qu'elle soit, que ça peut être sur l'insertion, l'emploi, le handicap, etc. Mais parce que ces jeunes, c'est seulement maintenant qu'ils vont avoir encore plus besoin de vous, sur la mobilisation de parrains, vu le contexte.
Donc ne pas lâcher la mobilisation auprès de ces jeunes, c'est le message principal vous passez.
C'est le message et envers quelle que soit la cause, ne pas penser au milieu associatif. Et c'est vrai qu'on l'oublie souvent, aux informations, l'actualité, on en parle peu, mais les associations, elles ont un lien non seulement social, mais économique également utile.
Ouais, elles sont sur le front effectivement depuis le départ de cette crise de coronavirus, on l'a bien constaté. Puis il faut souligner aussi que les associations ont également le droit aux aides gouvernementales comme les entreprises.
C'est le cas de NQT avec le chômage partiel et puis entre autres. Oui.
Eh bien, pour terminer, Philippe Roffin, si on souhaite en savoir plus sur votre association et sur les actions que vous menez auprès des jeunes diplômés issus de milieux modestes et de quartiers pauvres, comment fait-on ?
Aller sur notre site, nqt.fr.
Oui.
D'accord. Donc, s'il y a les jeunes auditeurs, si vous voulez vous inscrire, bien sûr, selon nos critères, je disais tout à l'heure, les critères d'éligibilité, moins de 30 ans, Bac+, 3+, issus de milieux sociaux défavorisés. Donc, sur notre site nqt.fr, c'est laissé guider, c'est très simple. Il y a un onglet je m'inscris. Ensuite, on se laisse guider. Voilà, jeunes diplômés ou que ce soit jeunes, entreprises. Donc, la boîte mail, elle est là. Donc, Hauts-de-France. Tout attaché, donc hauts-de-france@nqt.fr, et moi-même ou nos équipes sont à la disposition pour apporter plus ample renseignement par rapport à notre thématique de parrainage. Et au-delà de NQT, mais c'est vraiment le parrainage lui-même qu'on met en avant. C'est un outil, c'est vraiment un outil formidable.
Eh bien, merci Philippe Roffin d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes délégué régional Hauts-de-France de l'association Nos Quartiers ont du Talent. Très belle journée à vous.
Merci.
On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie. Sans vraiment savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir. Combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air. Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre. Je n'avais plus le souffle pour faire tourner la roue. Jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. flamme s'est allumée. On a tous un jour eu ce moment de magie, croiser ce héros malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire, et l'espoir fleurit à tous ces héros malgré eux. Je voulais leur dire merci. On ne se connaît pas, mais vous m'avez tellement appris. Vos mots, vos sourires et vos larmes ont sauvé la vie. Vos combats m'ont appris à encaisser les coups, et votre persévérance à me remettre debout. Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamin. Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment être un humain. Vous êtes ce second souffle qui m'a fait tourner la roue. Je remercie le destin de vous avoir mis sur ma route. Oui, c'est vous. Ces mots vous sont adressés, peut-être qu'ils feront l'effet que vous avez eu sur ma vie. On a tous un jour eu ce moment de magie, croiser ce héros malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire, et l'espoir fleurit à tous ces héros malgré eux. Je voulais leur dire merci.
C'est que ma vie en péril, des nuits ça me hante. Quand de haut en bas Satan, moi les yeux fermés j'avance, tout en inconscience quand j'y pense. Toi, tu crois que je brille, que je monte. Ouvre tes yeux grands, mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes. J'en appelle à ma sagesse, SOS. C'est ok, je suis fragile, presque sans défense. Ne crois pas que c'est futile, c'est ici que tout commence. Quand dedans ça papillonne, que ça s'agite, que ça cogne, je me défile et je m'étonne. Toi, tu crois que je brille, que je monte. Ouvre tes yeux grands, mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais que comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes. J'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes. J'en appelle à ma sagesse. Avec comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes. J'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes. J'en appelle à ma sagesse.
À l'instant, c'était Camélia Jordana avec Facile, son dernier single. Et juste avant, c'était Soprano, bien sûr, avec nos héros du quotidien.
Radio Plus.
La situation de l'association Emmaüs est préoccupante. C'est le thème du reportage de nos confrères de Banquise FM que vous allez entendre tout de suite.
En 1954, l'abbé Pierre crée Emmaüs. Aujourd'hui, Emmaüs France fédère 288 groupes et compte 27 000 personnes en France, des compagnons, bénévoles, salariés en insertion. Il existe différents types de structures au sein du mouvement pour trouver avec les personnes victimes de phénomènes d'exclusion des solutions qui leur permettent de redevenir acteurs de leur vie. Dans la région, il existe notamment plusieurs boutiques solidaires où tout le monde peut déposer des objets dont il n'a plus besoin, des vêtements, des meubles ou encore des livres par exemple. L'achat de chacun de ces objets contribue à soutenir les actions de l'association tout en favorisant l'insertion professionnelle grâce aux postes créés dans chaque magasin. Mais depuis le début de la crise sanitaire, ces boutiques étaient complètement à l'arrêt. Heureusement, les sites de Saint-Omer et Calais ont pu rouvrir le mardi 12 mai, comme plusieurs dans la région, pour le plus grand plaisir des bénévoles et compagnons. Nous avons échangé par téléphone le 12 mai dernier avec le directeur d'Emmaüs Saint-Omer et Calais, Laurent Charles. Il nous en dit plus sur l'impact qu'a eu cette crise sanitaire sur l'activité de l'association et sur la réouverture de ses sites. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment fonctionne votre association tout le long de l'année ?
Alors une communauté Emmaüs, alors déjà on accueille 45 compagnons sur la communauté de Saint-Omer, donc 45 compagnons et compagnes, et 22 compagnons aussi sur les attaques près de Calais. Donc une communauté Emmaüs, c'est un lieu d'accueil, de vie, d'activité et de solidarité qui fonctionne essentiellement sans subvention et uniquement grâce à la récupération d'objets. Donc les communautés accueillent souvent des personnes de tout horizon. Elle permet en tout cas aux compagnons qui sont hébergés de se refaire une santé, de retrouver on va dire des repères d'une vie sociale, et ils sont en charge essentiellement donc du coup de la récupération, de la réparation et de la revente d'objets divers en fait. On va dire une communauté Emmaüs aussi, c'est un tremplin d'insertion pour la communauté essentiellement, et aussi ils ont la chance en tout cas d'être formés tout au long de l'année.
Donc je suppose que le confinement était très compliqué pour vous, vous étiez totalement à l'arrêt, c'est ça ?
Alors on a été à l'arrêt, oui, depuis le début du confinement, donc vous pensez bien que ça a été très très compliqué pour nous, parce que pas de vente, pas de recettes, et pour autant on a eu des charges qui tombaient, notamment des factures d'énergie, de chauffage, d'électricité, d'entretien, d'alimentation aussi pour les compagnons, et pour le coup ça a épuisé en tout cas toute notre trésorerie.
Donc heureusement vous avez pu réouvrir le 12 mai dès le début du déconfinement. Comment vous êtes organisé pour cette réouverture ? Comment ça s'est passé pour vous et vos équipes de bénévoles ?
pour savoir c'est le fruit de la vente hein, qui fait vivre donc de la communauté. Avant l'ouverture, on s'était préparé, hein, en tout cas pour sécuriser les compagnons d'Emmaüs, les bénévoles et les salariés aussi, parce qu'on est une équipe de 13 salariés sur l'ensemble des deux communautés. C'était d'abord sécuriser aussi les clients. On a installé donc des parois de plexi hein, au niveau des comptoirs de caisse et de vente, et on a mis en place des consignes de sécurité, de distance en tout cas, dans les salles de vente, dans le local de dépôt des réceptions des dons, et aussi des consignes de sécurité qui ont été aussi préconisées pour les ramassages à domicile.
Et donc vous avez déjà eu quelques visiteurs ?
On a eu des visiteurs, on a été surpris de l'affluence, mais on sait que on peut faire rentrer des clients au fur et à mesure, mais voilà, donc les clients, les acheteurs solidaires reviennent en nombre, tout à fait.
Des acheteurs solidaires qui avaient peut-être profité du confinement pour faire du tri chez eux et vous apporter leurs dons.
Tout à fait. Donc on a besoin de la générosité des gens et donc pour déposer des dons d'objets divers, en fait, on accepte donc des meubles, des vêtements, des jouets, des livres, de la vaisselle, de l'électro, etc. Voilà.
Et donc ensuite vous les vendez et cet argent.
Fait vivre la communauté. Donc c'est le fruit de la vente qui fait vivre la communauté en général. Ça permet d'accueillir des gens qui étaient auparavant à la rue. Hein. Ce sont souvent des personnes ou des familles qui frappent à la porte d'Emmaüs. Hein. Ce sont des personnes qui sont le plus souvent non pas de toit, pas de ressources, parfois aussi sans papier, qui sont aussi très isolées et très très fragilisées en fait.
Depuis mi-mars, l'activité des boutiques Emmaüs était donc complètement à l'arrêt et l'association est en réel danger. Ce fut aussi un moment compliqué et long pour les bénévoles, compagnons, qui attendaient avec impatience la réouverture des boutiques, comme nous l'explique Laurent Charles, directeur d'Emmaüs Saint-Omer et Calais.
Comment ils ont vécu ce confinement ? Ça a été, on va dire, assez particulier. On a profité en tout cas de cette inactivité pour faire du rangement dans les magasins et les ateliers. Et puis, on a aussi profité de faire des travaux de réparation et d'entretien dans les bâtiments, en fait. Alors, il est vrai que pour eux, ça a été une privation de liberté. Hein, et puis, enfin, pour eux et puis pour nous, en général, on s'est rendu compte que l'espace-temps était quand même chamboulé.
Mais les équipes ne sont pas encore au complet. Tous les bénévoles n'ont pas encore pu revenir pour cette ouverture des boutiques Emmaüs solidaires de Saint-Omer et Calais. L'association a donc besoin de bénévoles au plus vite. Pour le moment, est-ce que tout le monde a pu revenir au sein de vos sites à Saint-Omer ou Calais ou pour l'instant, vous y allez tout doucement?
Oui, au niveau des bénévoles. Oui. Alors, au niveau des bénévoles, justement, la plupart ont plus de 75 ans, ils connaissent déjà des problèmes de santé. On va dire sur les 120 bénévoles sur les deux sites, hein, sur les deux communautés, 50% de l'effectif bénévole est manquant. Hein, car souvent ces gens-là ont des problèmes de santé en fait. Donc on lance un appel pour recruter de nouveaux bénévoles.
Voilà. Voilà, des bénévoles qui peuvent venir à partir de maintenant vous aider. Et comment vous voyez l'avenir pour terminer pour vos sites à Saint-Omer et Calais, pour tous les sites Emmaüs en France et dans la région?
On espère que les gens vont revenir, tout simplement.
Pour devenir bénévole ou pour tout renseignement, rendez-vous sur les Facebook d'Emmaüs Saint-Omer et Les Attaques. Les magasins sont ouverts du mardi au samedi de 14h à 17h et les dépôts textiles sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. N'oubliez pas de vous munir de votre masque et respecter les règles de distanciation. Il y a aussi un service de ramassage gratuit de dons que vous pouvez joindre au 03 21 98 86 34. Et pour savoir où vous pouvez trouver une boutique solidaire Emmaüs près de chez vous, rendez-vous sur le site www.label-emmaüs.co où vous trouverez aussi une boutique en ligne. Cette interview téléphonique a été réalisée le 12 mai dernier par Mélissa Miellet pour Banquise FM.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Time to get away, God. s'échapper. S'arrêter. Si l'on nageait sans respirer, aurons-nous de l'air cet été? Tout le monde cherche à s'échapper.
Gaëtan Roussel sur Radio Plus à 9h passée de 45 minutes. On passe à l'actualité associative. Neuf associations sur 10 touchées par l'épidémie de coronavirus. Recherche et Solidarité avait lancé une enquête à laquelle ont répondu environ 16 000 associations, soit plus de 20% des associations existantes et 6,2% des structures employeuses. Les résultats parlent d'eux-mêmes. 65% des associations ont mis leur activité en sommeil. Et c'est le cas de 76% des associations sportives et 23% l'ont réduit significativement. Quant à celles qui ont maintenu une partie de leur activité, elles estiment en majorité que cette activité représente en réalité moins de 20% de leur activité habituelle. Concernant l'événementiel, la plupart des événements sont déprogrammés. Cela monte jusqu'à 90% dans les associations culturelles. Des événements qui pouvaient constituer pour 44% de ces associations interrogées leur cœur d'activité. La moitié des associations prévoient des conséquences économiques dans les 6 mois. 21% d'entre elles disposent de moins de 3 mois de trésorerie. Un chiffre qui monte à 28% pour les associations employeuses. Parmi ces dernières, 69% pensent recourir ou ont déjà recouru au chômage partiel. Plus de la moitié ont mis en place du télétravail. Enfin, un quart d'entre elles ont mis en place des arrêts de travail indemnisés pour garde d'enfants. D'autres questions surviennent évidemment pour ces associations. Les mécénats, les dons seront-ils au rendez-vous? Les pouvoirs publics maintiendront-ils des financements accordés sur des programmes qui risquent d'être revus à la baisse ou annulés? Cependant, 82% des associations entretiennent des relations avec leurs bénévoles et bénéficiaires et 46% d'entre elles se disent prêtes à se mobiliser, elles et leurs bénévoles, dans des démarches civiques. Un DLA, dispositif local d'accompagnement, a ouvert des groupes d'échange à distance à l'attention des responsables associatifs autour de deux thématiques. Comment tenir à flot financièrement et les pratiques numériques en situation de confinement. Un réseau national tel que Covid Entraide France s'est également créé pour relier des groupes d'entraide locaux qui se sont spontanément mis en place partout sur le territoire. Voilà concernant cette situation des associations.
Took a
Bruce Springsteen sur Radio Plus à 9h passée de 52 minutes. Encore un peu d'actualité associative, un petit coup de gueule du mouvement associatif à travers un communiqué de presse paru le mardi 5 mai. Où sont passés les engagements du gouvernement? C'est le titre de ce communiqué de presse qui pointe le fait que le mardi 21 avril, Gabriel Attal avait annoncé devant l'Assemblée nationale les engagements du gouvernement pour le maintien des subventions aux associations, devant se traduire par une circulaire du Premier ministre. Et il n'y a toujours aucun signe de Matignon, affirme le communiqué. Et cela alors que les associations continuent à se heurter à de multiples difficultés dans l'accès aux différents dispositifs d'aide, toujours selon le mouvement associatif. Plusieurs exemples cités dans le communiqué de presse, notamment l'accès aux dispositifs de mesures d'urgence de droit commun, comme le prêt garanti par l'État, le fonds de solidarité, chômage partiel, reste difficile pour les associations employeuses et impossible pour les associations non employeuses, même si elles ont des charges fixes à supporter et même si elles génèrent de l'activité économique. Et des associations se voient ainsi refuser l'accès au fonds de solidarité au prétexte qu'elles ne payent pas d'impôts, alors que ce n'est pas un critère posé par les textes, toujours selon cette association. Voilà, c'est la fin de Fréquence Association. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Microscope, le magazine des radios associatives du nord de la France. Et puis à 11h, ce sera une rediffusion de votre émission Savoir Plus. Très bonne matinée à l'écoute des programmes de Radio Plus.
So there's nothing the matter with the fuse.
I knew.